Bienvenue à Question d'aujourd'hui, au micro Renaud Grégoire. Question d'aujourd'hui qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, une invitée très spéciale, je suis très heureuse de l'accueillir à Question d'aujourd'hui, Sœur Maria Victoria Coelho Amador, qui est une religieuse de la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire. Bienvenue, Sœur Maria Victoria.
Merci beaucoup.
Très heureuse que vous soyez avec nous parce que vous avez un cheminement tout à fait particulier et vous allez nous présenter un projet tout à fait formidable autour de votre fondatrice, Élisabeth Turgeon. Mais avant, parlez-nous, Sœur Maria Victoria, de votre cheminement du Honduras à Rimouski. Qu'est-ce qui vous amène du Honduras à Rimouski?
Bon, je peux commencer en disant que avant de venir ici au Canada, j'étais missionnaire au Pérou. Je suis la première missionnaire hondurienne après mes 2 ans de vœux temporaires.
Toujours dans la congrégation?
Dans la congrégation, oui. Et j'étais 6 ans au Pérou, à la jungle. Alors ça a été une expérience qui vraiment m'a préparée pour vivre aujourd'hui comme église et comme religieuse.
Donc, vous avez été 5 ans dans la partie qui est peut-être moins connue du Pérou comme missionnaire, donc la jungle. Donc là vraiment, il y a pas de route, il y a rien.
16 ans au Pérou.
Et 16 ans au Pérou.
Comme 10 ans plus dans la jungle et 5 ans dans la Lima.
Qui est la capitale.
La capitale du Pérou.
Parce que vous avez choisi cette communauté des Sœurs du Saint-Rosaire. Pourquoi vous avez choisi cette communauté?
Parce que d'abord, j'étais enseignante. Et j'aime beaucoup les enfants. Et quand j'ai connu une Sœur du Saint-Rosaire, elle s'appelle Huguette Tremblay, canadienne, j'ai vu que cette femme, elle avait une joie. Et était vraiment proche des jeunes. Dans ce moment, j'étais jeune. Et moi, je me suis dit, ah, je pense que je peux aussi offrir ma vie comme elle. Et j'ai commencé mon cheminement pour apprendre c'est quoi une religieuse. Et surtout, c'est quoi être une sœur du Saint-Rosaire. J'ai laissé et j'ai commencé mon cheminement en laissant mon travail et j'ai laissé aussi mon endroit. Je viens du sud de Honduras où est la chaleur à 40.
Vous avez laissé la chaleur pour être missionnaire.
Oui. Et bon, j'étais déjà au Pérou et la congrégation m'a demandé d'être responsable de la formation initiale au niveau des jeunes pour que les jeunes se préparent à la vie religieuse. Et ça a été une belle expérience aussi, mais c'est là que je me suis rendu compte que accompagner des jeunes, c'est important d'être bien formé. Et j'ai demandé venir à Montréal pour étudier à l'Institut de formation humaine intégrale. Pour vraiment être en mesure de répondre à tous les défis comme accompagnatrice. Dans un monde, je te parle des années 2000, 2025, et moi aussi, j'étais au Pérou dans un contexte où il y avait tout le terrorisme. Il y avait beaucoup de familles et de jeunes qui vraiment étaient touchés pour cette expérience, que c'est une expérience de traumatisme. Je voulais être en mesure d'accompagner ces défis.
Alors, la bonne volonté ne suffit pas, particulièrement lorsque vous devez accompagner des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, mais aussi lorsque les conflits internes s'ajoutent à ça, il y a beaucoup de traumatismes.
Oui, tout à fait. Et alors, j'avais connu Marie-Marcel, qui était la responsable de l'Institut de formation humaine intégrale, et j'avais déjà connu des sœurs qui avaient passé par l'IFIM. Alors j'ai dit, bon, je vais aussi demander. Et la congrégation m'a donné la permission de rentrer ou de venir étudier 3 ans à l'IFIM. C'est ça, j'ai fini en 2009. Et en 2009, commençait aussi notre chapitre.
Alors, qui est la réunion qui a lieu tous les 5-6 ans dans les congrégations pour faire un peu le point sur le cheminement qu'a fait la congrégation, prendre des nouvelles orientations et souvent élire un nouveau conseil.
Exactement. Alors, quand j'étais l'Amérique latine, dans ce moment où nous, on était au Pérou et toute l'Amérique centrale, m'ont choisi pour que je représente l'Amérique latine dans les chapitres. Et je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Quand on rentre au chapitre, nous ne savons pas. Alors, c'est là que, de nouveau, la congrégation me lance un appel de participer ou être membre au conseil général de la congrégation comme hondurienne et aussi comme missionnaire au Pérou. J'avais les deux éléments forts pour collaborer dans un conseil général.
Et depuis donc 2009, vous êtes au conseil général et vous restez au Québec.
Oui.
Et donc, vous avez connu tout un moment d'intégration aussi au Québec. Et actuellement, vous êtes à Rimouski. Vous avez un rôle très particulier à Rimouski. Quelques mots là-dessus?
Oui. Bon, alors j'étais au conseil général par 2 mandats. Ça veut dire 2 ans. Après que j'ai fini, ça a été après la pandémie, j'ai fait de nouveau un discernement parce que le fait de rester 2 ans à Rimouski m'a permis aussi de connaître un peu et d'être proche de la réalité, surtout des familles réfugiées. Et c'est là que devient mon appel pour rester à Rimouski, pour collaborer et pour continuer d'accompagner surtout les familles qui viennent de la Colombie, du Salvador, qui parlent l'espagnol.
Il y a très peu de gens, peut-on dire, dans les régions, peut-être plus dans certains centres urbains, mais encore là, mais il y a un peu de gens qui ont la langue. Et la langue, c'est un peu le premier pont qu'on peut établir avec quelqu'un.
Exactement, oui. Et c'est là que moi, j'ai accompagné parce que l'organisme Accueil d'intégration me demandait d'accompagner les familles aussi, parfois de faire la traduction. C'est là que j'ai continué peu à peu d'être proche de la réalité et d'être aussi de m'engager devant les différents organismes communautaires de Rimouski.
Sœur Maria Victoria, vous êtes comme votre fondatrice, Elisabeth Turgeon, près des réalités. Pouvez-vous justement nous parler, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui, vous organisez quelque chose de très particulier pour faire connaître votre fondatrice, Elisabeth Turgeon, mais avant de parler de ce beau projet, qui est Elisabeth Turgeon?
Pour moi, Elisabeth Turgeon, c'est une éducatrice de taille, une éducatrice pleine de tendresse et de sollicitude. Et elle aussi, elle a vécu un parcours intéressant, je dirais, parce qu'elle a laissé bon mot. Et elle a répondu à un appel de Monseigneur Langevin pour aller à Rimouski pour s'en occuper de former des institutrices. Parce que dans ce temps, il n'y avait pas beaucoup d'institutrices dans la région de le Bas-Saint-Laurent jusqu'à Gaspé. C'est là que Monseigneur voulait avoir qu'Elisabeth peut s'en occuper de cette œuvre.
Donc, Elisabeth Turgeon, elle vient du village de Beaumont, qui est dans la région de Québec, et elle reçoit un appel de l'évêque de Rimouski. Et comment elle va répondre à cet appel-là? Qu'est-ce qu'elle va faire?
D'abord, elle va lire la lettre de Monseigneur et découvrir que dans les lignes, il y avait des besoins. Et des besoins très, très urgents, surtout pour les enfants et pour les familles pauvres.
On est en quelle année?
1875.
Donc, elle reçoit cette lettre qui parle des besoins de Rimouski, de la région.
Oui. Et aussi, elle a hésité un peu parce que tu sais qu'elle avait une santé fragile, très fragile. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas répondu tout de suite à l'appel, parce que depuis, comment on dit la date?
1875.
Mais je pense qu'elle l'a reçu en 1274.
Donc l'année précédente.
Oui.
Donc ça y a pris du temps avant de répondre.
Oui. Et c'est à cause de sa santé. Mais une fois qu'elle a découvert qu'elle était capable de répondre, elle est partie à Rimouski. Elle arrive le 3 avril, que nous disons c'était un jour de printemps, sous le soleil de printemps. Et elle arrive, et vraiment, c'était la femme que Dieu avait besoin pour mettre sur pied un projet, comme fonder une congrégation. Et dans ce moment, les noms, ça a été les petites sœurs, les sœurs des petites écoles.
Oui, on les surnommait les sœurs des petites écoles parce que, justement, les sœurs, lorsque Élisabeth Turgeon rassemble ces femmes, elles vont deux par deux, je pense. Elles suivent presque l'évangile de Luc, qui Jésus envoyait les gens deux par deux, les disciples deux par deux. Elles sont dans des régions. D'abord, faut s'imaginer, j'imagine, c'était très peu développé. Les routes étaient difficilement... si elles existaient, ces routes, ça devait être tout un périple.
La première mission à Rimouski, c'est la première mission missionnaire, ça a été Saint-Gabriel. Aujourd'hui, Saint-Gabriel, tu le fais, je pense, en 20 minutes. Mais dans le temps d'Élisabeth, d'abord, on prenait les chevaux et toute la journée ou deux jours pour arriver à Saint-Gabriel.
Deux jours, alors qu'aujourd'hui c'est 20 minutes. Alors
oui.
ça dit tout de l'héroïsme.
Oui, l'audace. Nous, on reconnaît dans Élisabeth cette audace et une femme déterminée. Et elle savait que les enfants pauvres, ça a été, par exemple, qu'elle tenait à cœur et de les éduquer, mais aussi de manifester toute la tendresse qu'il avait dans son cœur.
C'était une attention particulièrement aux enfants qui étaient, qu'elle voyait comme l'avenir.
Oui. Oui. Et aussi, elle avait choisi que Bremen, c'est dans la campagne. Par exemple, Saint-Gabriel, c'est aujourd'hui encore, c'est une région qui on dit la partie de campagne, non, des petits villages, et après est allé jusqu'à la Gaspésie. Ce sont les autres deux missions pour dire que Élisabeth, elle était capable d'ouvrir des chemins, mais des chemins où c'est impensable dans le moment. Non? Mais aujourd'hui aussi, on pense que c'est loin pour aller jusqu'à la Gaspésie. Mais là-bas, elle a fait, surtout, elle a préparé les éducatrices pour aimer les enfants. Ils les aimaient tellement que pour eux, c'est important que l'enfant apprenne à avoir des valeurs. Des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes. Et ça a été tout l'œuvre d'elle et de ses compagnes.
Et c'est ce qu'elle vous a transmis, sœur Maria Victoria?
Oui, j'ai reçu cet héritage par les sœurs missionnaires qui sont arrivées au Honduras en 1964. C'était la première mission à Nakaome au sud, les quatre premières sœurs canadiennes. Et j'ai reçu tout cet héritage. Pour moi, c'est une legs spirituelle très, très forte que j'ai compris non seulement avec mon intelligence, sinon avec ma propre expérience comme enseignante, comme éducatrice, qu'on est appelé à transmettre et à laisser une une empreinte qui aide vraiment à faire un chemin vers Dieu, vers Jésus, mais aussi pour une transformation sociale. Moi, c'est clair et net qu'Elisabeth, toute son œuvre, c'est pour arriver que non seulement la famille doit changer, sinon aussi même tout l'aspect social.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Sœur Maria Victoria Coelho Amador, qui est une religieuse de la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire, qui sont connues à Rimouski, mais ailleurs aussi. Elle est hondurienne d'origine. Et vous avez, Sœur Maria Victoria, un projet très particulier, très formidable pour cet été 2025, un projet qui va permettre justement de faire connaître votre fondatrice, Elisabeth Turgeon. Parlez-nous de ce magnifique projet que vous avez.
Tout commence avec un rêve. Et quand on a commencé à parler de que on doit se préparer pour célébrer les 150 anniversaires
de la congrégation,
alors moi j'aime beaucoup le théâtre. J'ai travaillé avec les jeunes et j'avais fait, quand j'étais au conseil, j'avais fait une démarche, une recherche, comment évangéliser aujourd'hui.
Comment évangéliser aujourd'hui?
Surtout aux enfants et aux jeunes. Et dans la recherche, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, les moyens, c'est de passer par l'art, le théâtre, la musique, la danse, et comme je savais que j'aime beaucoup le théâtre, alors j'ai connu c'est qu'aujourd'hui, lui, c'est le directeur de la pièce de théâtre. Il s'appelle Mario Troches. Lui, il demeure aux États-Unis. Et en 2023, on se rencontre. Et moi, je lui parlais de quel était mon projet ou mon rêve. Et lui, il a dit, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça ici à Rimouski? Je lui dis oui. Mais dans un premier moment, lui, il a dit, parce que lui, il est intégrant d'un groupe qui s'appelle, en espagnol, on dit Ejército de Paz. Et c'est un groupe missionnaire, sans frontières, que vraiment les valeurs, c'est la paix, travailler pour la paix.
On pourrait traduire par artisan de paix.
Oui, artisan de paix.
C'est ça.
Et lui, il m'a dit, Victoria, bon, ok, on va mettre sur pied ce projet, on va inviter, et s'il y a un groupe qui veut, on y va. Alors, lui, il a lancé l'invitation dans son côté, à partir de son pays, des États-Unis, lancé l'invitation pour toute l'Amérique centrale. Et déjà, il y avait comme une trentaine de personnes qui ont dit, oh, on peut faire ce projet. Et au départ, je pensais qu'on va le faire en espagnol, parce que c'est plus facile, non? Mais à fur et à mesure, on comprend qu'en espagnol ici, surtout les régions de Rimouski...
Vous allez rejoindre moins de gens.
Moins de gens. Et chercher des traducteurs, des traductrices, n'est pas évident. C'est là qu'on a dit, bon, on va le faire en français. Mais avant de commencer la pièce de théâtre, la première chose que j'ai fait, c'est de former les gens, un groupe qu'on appelle des écrivains, pour que le groupe puisse connaître l'histoire d'Elisabeth Turgeon, et après écrire, et ensuite le directeur mettre sur pied la pièce de théâtre.
Donc, on laisse s'approprier l'histoire même de la fondatrice,
oui,
Elisabeth Turgeon, pour savoir un peu quels étaient les éléments qui touchaient, j'imagine.
Exactement, oui.
Quels étaient les éléments qui pouvaient être mis en évidence dans sa vie, une vie très riche d'ailleurs.
Alors, j'ai travaillé par Zoom, comme 2 mois, pour donner toute la formation et surtout aller chercher les éléments importants de l'histoire d'Elisabeth Turgeon. Et que je me suis rendu compte que chaque fois, il y avait quelques éléments que les gens étaient touchés par l'histoire d'Elisabeth Turgeon. Et tout le monde était, comme aujourd'hui on disait, emballé pour l'histoire, pour elle. Et c'est comme ça qu'on commence. Mais comme je disais au départ, c'était en espagnol, mais vite on se rend compte que non, qu'on aurait besoin de comédiens de Rimouski. Alors on lance l'invitation, c'est moi qui lance l'invitation pour les gens de Rimouski, parce que déjà on avait des comédiens de l'Amérique centrale, les États-Unis, il nous manquait d'ici. On a trouvé comme plus que 15. Que vraiment que sont proches auprès des autres de notre congrégation et que voulaient vraiment honorer notre fondatrice.
Donc, vous avez trouvé 15 comédiens, comédiennes qui embarquent dans votre projet d'illustrer par le théâtre la vie de votre fondatrice, Elisabeth Turgeon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Bon, ensuite, la question, c'est comment on va faire pour que les gens de l'Amérique centrale rentrent au Canada avec toutes les affaires d'immigration.
Alors, c'est ça votre projet, c'est d'avoir cette rencontre de comédiens, comédiennes, de gens qui connaissent la vie d'Elisabeth Turgeon, qui ont été touchés. Donc, des gens d'Amérique centrale, des gens qui sont déjà à Rimouski dans la région, et que ces gens se rencontrent, mais vous devez faire venir donc ces personnes, cette trentaine de personnes du Honduras, à Rimouski, et bien sûr, il y a la frontière à traverser.
Il y a la frontière à traverser et je peux nommer une personne que pour moi, ça a été clé aussi dans ce projet, c'est Monseigneur Denis, l'archevêque de Rimouski. Lui aussi a cru dans ce projet et lui, vraiment, c'est lui qui a répondu avec toutes les lettres et avec tout cet accueil pour Rimouski.
Alors, ce que vous voulez donc souligner par cette pièce de théâtre qui sera d'ailleurs, donnons les dates, le 24 et 25 juillet, qui sera donc montrée à Rimouski. Vous voulez donc que ces gens puissent se rencontrer, travailler ensemble pour honorer Elisabeth Turgeon. Quels sont, sans tout dire de la pièce de théâtre, mais je vous dirais, sœur Maria Victoria, quels sont les quelques éléments qui vont être mis en évidence dans cette pièce de théâtre?
D'abord, on a travaillé fort pour voir comment le titre. Et dans notre réflexion avec Monseigneur, on a vu l'importance qu'on est dans l'année jubilaire. Et que ce projet devient diocésain aussi. Et on a placé, par exemple, l'activité, la pièce de théâtre, dans le contexte de l'année jubilaire et dans la novène à Sainte-Anne.
Bien sûr, puisque la fête de Sainte-Anne est le 26 juillet et les représentations vont se faire le 24 et 25 juillet.
Et vont être présentées dans le sanctuaire de Pointe-au-Père de Sainte-Anne.
Magnifique sanctuaire d'ailleurs parce que les vitraux particulièrement sont absolument magnifiques. J'encourage beaucoup les auditeurs, auditrices à, si vous pouvez aller faire un tour pour voir cette magnifique église, ce sanctuaire. Hein? C'est un sanctuaire à Sainte-Anne.
Et je peux dire aussi que toute l'implication des bénévoles d'ici de Rimouski, on est plus qu'une trentaine qui travaillent, on peut dire dans l'ombre, non? Au niveau pour le logement, j'ai trouvé du monde, des familles tellement généreuses. Il y a une famille qui va me prêter sa maison pour que les gens qui vont venir vont rester 15 jours. Et dans une maison, il y a aussi notre maison, il y a l'évêché, il y a aussi différents secteurs qui vont accueillir les différentes familles qui viendront du Honduras, qui viendront des États-Unis aussi.
Et des États-Unis aussi.
Oui.
qui vont rencontrer donc ces familles qui sont ici. Donc c'est un projet, c'est presque un projet de fraternité. Est-ce que vous diriez ça, Sœur Maria Victoria?
Oui, c'est un projet d'abord où on vit l'esprit de famille et on veut vivre la fraternité universelle comme Église. Et on veut aussi présenter Elisabeth ne seulement comme une femme fondatrice d'une congrégation, sino aussi comme la femme qui aujourd'hui, c'est la bienheureuse Elisabeth Turgeon pour tout le peuple.
C'est une femme du peuple et qui est reconnue bienheureuse pour le peuple.
Oui.
C'est ça votre intention. Écoutez, Sœur Maria Victoria, je voudrais, en terminant, signaler que oui, vos gens qui viennent du Honduras et des États-Unis pour présenter avec des gens d'ici cette pièce sur Elisabeth Turgeon, qui viennent pour 15 jours, mais ils ne vont pas seulement rester à Rimouski. Je pense qu'il y a tout un pèlerinage, et je note, il nous reste une minute, malheureusement, il va y avoir un souper d'accueil, il va y avoir une messe de fraternité, il va y avoir un pèlerinage le 15 juillet, il va y avoir une visite même de la maison où est née Elisabeth Turgeon à Beaumont, une visite de la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire, et des pique-niques, barbecue, vous avez vraiment tout un programme absolument formidable. Quel est votre rêve en une minute, Sœur Maria Victoria?
D'abord, mon rêve déjà se concrétise, mais ce que je contemple chaque jour, c'est cet esprit d'ouverture, cet esprit aussi de famille et cette soif de tendresse et de sollicitude. Et dans chaque activité, c'est pour nous préparer, pour être des témoins, des pèlerins d'espérance.
Sœur Maria Victoria Coelho Amador, sœur de la Congrégation du Saint-Rosaire, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission et je vous souhaite une très bonne chance pour ce beau projet. C'est la dernière de notre saison 2024-2025 à question d'aujourd'hui. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et nous nous retrouverons à l'automne prochain. Au revoir.